Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie, Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui au programme, une émission culturelle, Pierre-Henri.
Ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps.
Mais c'est dans nos habitudes quand même.
Absolument, voilà. Donc nous allons parler de régions, c'est vrai qu'on s'adresse à tous les Français, à Radio Courtoisie, parce qu'on est écouté un peu partout, de manière différente, par le site de Radio Courtoisie, par le système numérique, etc. Mais nous nous adressons aujourd'hui plus aux citadins, aux Parisiens.
Oui, aux Parisiens.
Voilà, pour leur conseiller.
C'est notre page tourisme, en fait.
Voilà, pour leur conseiller des endroits à visiter.
Tout à fait.
Et donc, Pierre-Henri, après, on parlera de cinéma. Mais commençons déjà par les endroits, ces endroits superbes que l'on peut visiter, l'on peut découvrir, que nous ne connaissons pas forcément.
Et plus
alors, qu'est-ce
ou moins...
que vous nous avez concocté à visiter?
Alors, plus ou moins connu. Alors, c'est une très belle région qui a l'intérêt d'être proche de Paris. Elle est en Normandie et elle s'appelle Le Perche. Alors, Le Perche, certains auditeurs vont bien évidemment crier en disant qu'ils le connaissent par cœur, mais d'autres ne le connaissent absolument pas. C'est une région qui a ses grands amateurs et qui est ignorée de beaucoup de gens. Déjà, c'est une région qui a une... Alors, pour la situer, on est principalement dans le département de l'Orne, dans le sud-est de l'Orne, mais aussi au confluent du nord de la Sarthe et de l'Eure-et-Loire. Et les grandes villes qui délimitent un petit peu le gros de cette région historique que l'on appelle le Perche sont Nogent-le-Rotrou, Mortagne-au-Perche, puis on trouve aussi la Ferté-Vidame, on trouve Bellême, et ce sont les lieux les plus connus qui délimitent un petit peu cette région, qui est principalement donc dans le département de l'Orne, un peu avant la ville d'Alençon. Mais Alençon, ce n'est déjà plus l'Orne.
Vous avez dit Normandie au début.
Ah oui, alors, Normandie pour la région.
Ah d'accord, pardon.
Pour la région. Oui. Donc l'Orne, c'est avant c'était la Basse-Normandie, maintenant ça a été regroupé depuis François Hollande.
Oui, de toute façon, les découpages des régions en France, il y a de quoi en parler.
Et donc pour y accéder, en fait, c'est très simple. Quand on habite Paris ou la banlieue de Paris, eh ben, on se dirige plein ouest, on prend soit l'autoroute qui va vers Le Mans, et on a la sortie Nogent-le-Rotrou, et on arrive dans cette ville qui est l'ancienne capitale des Comtes du Perche, et ça a été en fait une famille au 11e, 12e, 13e siècle qui a été très puissante, la famille des Rotrou. Et on a encore le château des Comtes du Perche, qui est un château en grande partie médiéval et qui a été très bien conservé, qui se visite d'ailleurs. Et ça, c'est l'entrée sud, si je puis dire. Et l'entrée nord, toujours plein ouest, on part de Paris ou de la région parisienne, on dépasse Versailles par National 12, direction Dreux, Verneuil-sur-Avre, on arrive à Mortagne-au-Perche, ça c'est le nord du Perche. Et on est dans cette région de Normandie qui est une région de bocage, mais de bocage relativement vallonné. Alors qu'ailleurs, plus au nord, par exemple dans le Calvados, le bocage va être plus plat, et plus on va se rapprocher de la mer, plus les paysages vont avoir un relief relativement paisible, si je puis dire. Là, c'est plus vallonné, et avec beaucoup de massifs forestiers. La forêt.
Oui, c'est vrai que c'est étonnant pour la Normandie, c'est pas l'idée qu'on se fait généralement de la Normandie.
Oui, et ça donne en fait une variété de paysages, qui est particulièrement belle d'une part, et dans laquelle aussi on va trouver des points de vue qui portent très loin, et ce qu'on n'a pas partout en Normandie non plus, justement à cause d'un relief plutôt plat dans certains départements ou certaines régions. Il y a aussi des massifs forestiers, alors des massifs forestiers qui sont très beaux, sont des grandes forêts de chênes la plupart du temps. Je pense en particulier à la forêt de Soligny, parce qu'à côté vous avez la Trappe, ou le monastère de la Trappe, qui, paraît-il, malheureusement, va être déserté par les derniers moines trappistes qui y habitent, et c'est là que l'abbé de Rancé, dont Chateaubriand avait rédigé la vie, a rénové, justement, l'ordre trappiste, et on a réécrit la règle. Et donc, cette région-là, elle est, si on caricature, elle est connue pour trois choses. Elle est connue pour les chevaux percherons, qui sont des chevaux de trait très, très haut, à l'encolure, très puissants, et qui sont, c'est une race vraiment très appréciée, mais pas que dans justement, pas que pour le trait, mais aussi pour l'équitation. Donc on connaît pour le cheval percheron, on connaît pour les pommes, bien évidemment, il n'y a pas que là en Normandie, mais c'est une région à cidre et une région à Calvados, moins connue que le Pays d'Auge, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et on le connaît parce qu'il y a aussi des spécialités culinaires, dont le boudin en particulier à Mortagne-au-Perche, et c'est aussi une région qui a été beaucoup investie par les brocanteurs, et les brocanteurs je dirais haut de gamme, les brocanteurs
c'est-à-dire
de luxe.
Quel genre?
Alors, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le mobilier depuis, on va dire, 16e, 17e
Ah oui.
siècle. Mais pas uniquement. C'est-à-dire que vous avez, y a sur une chaîne de la télévision publique, vous avez une émission d'enchères qui est, on va dire, pilotée par des experts brocanteurs ou des experts commissaires-priseurs. Et plusieurs d'entre eux sont installés et ont leur boutique au sein du Perche. Pourquoi? Parce que. Le Perche est un lieu de villégiature, mais surtout de résidence secondaire pour, on va dire, une population de Paris et d'Île-de-France qui a à la fois du goût et pas forcément un petit peu de moyens, il y a beaucoup plus cher en France, mais quand même, qui a le goût des belles choses. Et ça a drainé, en fait, depuis les années 80, une espèce de courant de brocanteurs. Qui ont essayé un peu de s'implanter dans des villes comme Mortagne et comme Bellem pour justement développer une activité d'abord centrée sur les beaux objets du 15e, 16e jusqu'au 19e, 20e. Et maintenant, vous savez que la brocante a aussi investi beaucoup la collection des objets publicitaires du 20e siècle, la collection des, ça peut être des poupées, etc. Donc vous avez quelques références de la brocante qui sont là-bas et où on peut trouver tableaux, buffet Louis XIII ou des choses comme ça avec des gens qui sont de véritables experts. Donc si on caricature un peu le Perche, c'est un peu ça, c'est-à-dire le cheval, la pomme et la brocante. Et puis vous avez au niveau du patrimoine, un patrimoine architectural qui est absolument splendide. Et la typicité du Perche, c'est le manoir.
Ah.
Alors, ce qu'il reste...
Ça aussi, c'est un peu normand, hein.
Alors c'est un peu normand, sauf que là, architecturalement, c'est typique. Les manoirs percherons, généralement, sont des fermes fortifiées. Alors les fermes fortifiées, vous en avez dans plein d'autres endroits de France, en Beauce, dans le Pays Bessin, mais ce n'est pas du tout les mêmes, parce que vous avez une pierre utilisée dans le Perche, qui est une pierre ocre,
Oui.
et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Que ça soit en Touraine, que ça soit en Beauce, que ça soit dans le Calvados, non, là on a vraiment cette pierre qui est assez typique. Et ce sont des grandes fermes auxquelles généralement à la Renaissance ou un peu après au XVIIe siècle on ajoute des tourelles, bien évidemment, ou des pigeonniers. Et en particulier, il y en a un qui est assez connu, qui va être d'ailleurs très embelli à l'époque Louis XIII et Louis XIV, et qui sera après occupé par l'écrivain du XXe siècle, Roger Martin du Gard. Qui se visite d'ailleurs encore. Et donc là, architecturalement, que ce soit dans le civil ou dans le religieux, vous avez aussi une typicité percheronne qui en fait, si je caricature, une région absolument charmante. Voilà. Et alors, vous avez ceux qui connaissent, et il y a beaucoup de résidences secondaires, surtout de Parisiens, et puis vous avez une bonne partie de gens qui ne connaissent pas du tout, parce que c'est en retrait de la Normandie très connue.
Oui.
D'ailleurs, des plages du débarquement, c'est en retrait de Deauville et de Honfleur, c'est en retrait, c'est pas Étretat, c'est différent, c'est un. On va dire qu'on est à 1h30 de la mer. Donc c'est vraiment un pays de bocage. Mais voilà, après, si vous voulez, moi je peux rentrer un petit peu, donner quelques conseils à nos
Oui, bah
auditeurs
c'est
qui ne
justement, je suis
connaîtraient
sûr
pas.
qu'ils aimeraient bien, ceux qui connaissent pas, oui, bien sûr.
Alors, ce qui est assez étonnant, mais alors, moi c'est une région que je connais quand même depuis longtemps, mais il y a des hébergements de qualité.
Oui.
Alors là, je ne parle pas de... À la limite, je pourrais aussi dire que quand on veut investir dans une très belle résidence secondaire...
Est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'il y a un côté de la, pardon, de la Normandie qui a été investi par les Britanniques
Oui.
et qui a fait flamber les prix, vous
Oui.
disons les choses clairement.
Comme
Et
d'ailleurs le Gers, la Dordogne,
voilà. Et
la
donc, ça
Vendée.
devient pas du tout abordable parce que c'était en réalité tout ce qui est proche de la mer, hein, c'est comme partout d'ailleurs, pas qu'en Normandie, sur la Côte d'Azur, n'en parlons pas. Et donc, les manoirs, les belles maisons sont devenus hors de prix. Alors
Alors.
là, quels sont les... Est-ce que ça reste
Non.
encore
Il y
dans
a
la
eu une
limite du
période,
raisonnable?
il y a une période en effet où il y a eu énormément d'Anglais qui sont beaucoup repartis, mais même avant le Brexit, donc Anglais retraités. Certains ont poussé plus au sud pour plus de soleil, mais c'est en fait il y a eu le même phénomène qu'en Espagne. Il y avait énormément d'Anglais sur les côtes espagnoles,
Oui.
mais qui sont beaucoup partis parce que aussi les conditions fiscales en Espagne avaient changé. Bon, là, il y en a moins quand même des Anglais. Il y a eu aussi des Hollandais. Il y a eu une période où l'immobilier ancien, l'immobilier avec du cachet dans le Perche, avait atteint des tarifs qui pouvaient être assez coquets. Enfin, si vous cherchez, par exemple, dans le pays d'Auge, le beau pays d'Auge très réputé, Beuvron-en-Auge, parce qu'on n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de Deauville et de Honfleur, non, là, le Perche est beaucoup plus raisonnable, mais derrière, en fait, ce sont pas les mêmes, comment dire, ce sont pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que vous allez trouver des longères du 19e, du 18e, voire des manoirs du 18e ou du 17e, à des prix défiant toute concurrence quand on habite en Île-de-France. C'est-à-dire que pour le prix d'un F2...
Un studio à Paris.
Ouais, d'un studio à Paris, vous avez une longère du 18e.
Ah oui.
Bah, bien évidemment, après, ça a des implications de frais d'entretien.
Bien sûr, évidemment.
Parfois aussi de frais de rénovation. Mais non, alors, nos auditeurs qui auraient envie d'aller investir dans la résidence secondaire, pas loin de Paris, dans un endroit qui est quand même très préservé, parce que... On est à culture et politique, donc on va parler clairement au niveau politique aussi. Oui. En termes d'immigration et
c'est ce que j'allais vous poser comme question.
Délinquance, bah, très sincèrement, voilà, pour dire les choses clairement, à part à... On pourrait en parler parce que politiquement c'est intéressant, à part à... Excusez-moi, Nogent-le-Rotrou, où il y a une immigration qui est arrivée dans les années 70-80 à cause de l'industrie. Ailleurs dans le Perche, il n'y en a pas. Voilà.
C'est rare, les coins de France, il n'y en a
ouais,
pas. Très honnêtement,
là, vraiment, c'est même pas résiduel. Devient, c'est, oui. Mais à côté de ça, il n'y a pas de. Alors, c'est en fait, le Perche est coincé entre Nogent-le-Rotrou au sud-est et Alençon, qui n'est plus dans le Perche. À Alençon, on en entend parler surtout depuis le Covid parce que vous avez un quartier qui s'appelle Persaigne, qui est complètement gangréné par le crack, imaginez-vous.
Ah oui.
Donc, mais là, non, quand on est à Mortagne, à Bellem, à la Ferté-Vidame, non, là, on est dans une tranquillité totale.
Il y a encore des coins de France qui sont tranquilles, ça
oui,
c'est bien bon à savoir.
Alors après, on y mange plutôt bien, il y a une assez faible densité de restauration en fait. C'est assez étonnant par rapport à d'autres régions qui capitalisent beaucoup sur le tourisme gastronomique,
oui.
Comme l'Auvergne, comme l'Alsace. Il n'y a pas énormément de restaurants, mais on y mange très bien. J'aurais trois recommandations à faire pour nos auditeurs. L'hôtel du tribunal à Mortagne-au-Perche. Qui est vraiment dans la tradition, qui existe depuis 200 ans, qui est dans la tradition, on va dire, bourgeoise de province, mais avec un chef qui sait très bien manier ses aliments, qui n'est pas chichiteux. Et là, j'ai dernièrement mangé, c'était une poêlée de Saint-Pierre et de bar avec des fèves et des artichauts poivrades. Je peux vous dire que ça vaut très largement... Les plats chichiteux qu'on va avoir dans des équivalents parisiens. Donc là, c'est une valeur
sûre.
Et les
prix sont raisonnables ?
Et les prix sont raisonnables pour le cadre.
Ce ne sont pas les prix parisiens, j'espère.
Ce ne sont pas des prix parisiens, ce sont des prix de la France de 2026, hein, de la France de Macron, mais c'est nettement plus raisonnable que ce que l'on aurait en équivalent à la fois en goût et en quantité à Paris, dans un environnement où on a des nappes en tissu,
oui.
Des serviettes en tissu, où on a des serveurs qui sont bien élevés, qui sortent d'école, qui sont en apprentissage, où on vient nous passer le ramasse-miettes après le fromage et avant le dessert. On est dans une tradition gastronomique française et dans un cadre charmant. Alors plus moderne, plus contemporain, à Rémalard, une petite bourgade là où on est, au sud-est, on a deux jeunes, je crois que ce sont deux associés ou un couple, je ne me souviens plus, qui ont repris la vieille gare de Rémalard. Et c'est un petit restaurant qui s'appelle Hangar, qui est alors encore plus abordable, c'est pas une tradition bourgeoise classique, mais très très bonne. Et puis à Bellem aussi, on pourra aller à la dinette gourmande en particulier. Et dernière recommandation avant de changer de sujet, c'est une région à cidre très peu connue,
oui.
Mais qui vient d'obtenir son AOP il y a 3 ans maintenant, je crois, Cidre du Perche. Et il y a d'excellents producteurs, je pense en particulier donc à Ferré, à l'Hermitière, qui est au Teille, et à Charon, qui est très peu connu, mais quand on cherche un cidre paysan typique, il faut aller à Rémalard chez Charon, et c'est vraiment excellent. Et aussi, une femme qui vient de la région parisienne et qui fait du cidre avec sa fille à Verrières, et ça s'appelle la cidrerie, tout simplement. Et là, ce sont de très belles références pour les amateurs de cidre et de calvados, parce qu'il n'y a pas que le Pays d'Auge dans le calvados, pour les amateurs de spiritueux à consommer avec modération, loi et vin, blablabla. Voilà un petit peu pour recommandation touristique.
C'est un bon résumé, mais pour le logement, enfin, lorsqu'on y va pour investir dans d'une résidence secondaire, mais plutôt pour faire un petit séjour de 5-6 jours, par exemple,
ouais.
De visiter et profiter de tous ces avantages.
Abondance d'offres. Alors,
quels sont les bons endroits où on peut loger à des prix raisonnables ?
Alors, abondance d'offres, parce que vous allez avoir à la fois en gîte, en chambre d'hôte et même en hôtel, des endroits qui peuvent être justement des maisons ou des fermes du 16e, 17e siècle, retravaillées, reprises par les habitants. À Bellem, il y avait, je crois que ça a été repris, un hôtel particulier du fin 17e, début 18e qui s'appelait l'Hôtel du Soir, qui a été pendant longtemps un hôtel absolument magnifique. Et en fait, Il y a une abondance d'offres meublées justement avec un goût très recherché dans cet esprit brocante de luxe en fait.
Très authentique.
Très authentique. Oui. Alors bon, voilà, en fait, vos canaux de recherche habituels, je parlais tout à l'heure du restaurant de l'hôtel du tribunal, c'est un hôtel aussi, et c'est un hôtel en plein cœur de Mortagne. Vous avez une implantation aussi, un chef étoilé qui a, mais ça je ne saurais plus vous le dire, je ne l'ai pas testé directement, qui a fait une espèce de restaurant chambre d'hôte de très grand luxe, hein, quand même, avec des, je crois, des petites maisonnettes indépendantes dans l'est du Perche, du côté de Senonche. Donc, il y a vraiment une implantation assez luxueuse, et on a, que ça soit en hôtel, en gîte ou en chambre d'hôte, on a un choix qui est génial parce qu'il nous plonge vraiment dans un patrimoine qui va du 17e au 19e siècle et à des tarifs qui peuvent être très raisonnables. Voilà.
Très bien, on va faire une pause pour le Bobino et on va.
On parle cinéma après.
On parle cinéma après cette pause.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors nous reprenons notre émission culturelle aujourd'hui. On avait donc après les endroits à visiter en France, nous allons aborder le cinéma. Mais nous allons... Alors évidemment, Pierre-Henri, vous nous allez peut-être nous donner quelques recommandations pour des films à voir récents. Mais j'aimerais commencer par des films qui datent un peu,
mais qui
reviennent à l'actualité. Ouais. Nous a fait repenser à ces films. Ouais. Je dis l'actualité parce que, souvenons-nous, il y a quelques semaines, de cette opération américaine en Iran pour aller récupérer un pilote qui a échoué, enfin que dont l'avion a été abattu et qui a atterri donc dans les montagnes iraniennes. Et il fallait aller l'extraire de là. Et donc cette opération était un peu spectaculaire, hein, parce que bon, c'est vrai qu'elle a mobilisé beaucoup de moyens, mais c'était une réussite totale, puisqu'ils ont réussi, donc l'armée américaine a réussi à l'extraire. Et ça m'a rappelé, pas qu'à moi d'ailleurs, quelques opérations mythiques qui ont eu lieu dans notre histoire récente, enfin il y a une quarantaine d'années, des opérations comme ça, de très réussies, dans l'histoire, les Américains, en fait, ce qui était frappant dans cette affaire, c'est que les Américains ne nous avaient pas habitués à des réussites dans ce genre d'opération. Parce que
très improvisé, surtout.
Oui, en fait. Précédemment, l'armée américaine avait tenté de faire des opérations de la sorte pour sauver des ressortissants américains, et c'était à chaque fois des échecs.
Bah, il y a eu l'Iran en 80.
Oui, absolument.
En Somalie, ça n'a même pas marché. Voilà,
en Somalie, l'Iran, il y avait des otages donc, juste après la révolution iranienne, et c'était un échec total, si bien que c'est devenu un peu la risée du monde. Enfin, tout le monde se moquait des Américains qui sont incapables de... Alors, les deux pays qui étaient réputés être les meilleurs pour ce genre de choses, c'était Israël et la France. D'ailleurs, c'est vrai, les services français sont réputés. Vous savez que les services français, le GIGN, et d'autres, il n'y a pas que le GIGN, d'autres services français.
Le service action du côté de l'armée, voilà, bien évidemment.
Il y a plein de services en France qui sont spécialisés dans ça, et ils forment, et leur réputation est telle qu'ils forment beaucoup de groupes étrangers, police, armée, etc., à ce genre d'opération, parce que notre expérience, notre expertise dans ce domaine est tellement reconnue qu'on fait appel à nos services pour formation de troupes d'élite de ce genre, tout et fait. Les Israéliens aussi. Il faut dire que les deux auxquels on fait le plus appel pour former des équipes de ce genre, c'est la France et Israël. Ouais. Et d'ailleurs, les deux services collaborent. Vous savez que, Pierre-Henri, que les services français et les services israéliens, qu'ils soient gendarmerie, armée, etc., collaborent beaucoup et s'entraînent ensemble. Et donc, les deux événements les plus marquants, je rajouterai, alors je vais dire, c'est du côté israélien, c'est l'opération Entebbe, on va en parler, et on va parler du film. Et la deuxième opération, donc l'opération française, c'était Colvézi.
Ouais.
On va en parler. Ouais. Mais j'ajouterai en France, parce qu'il n'y a pas que le sauvetage d'otages, etc. Il y a aussi les détournements d'avions.
Oui.
Et on ne peut pas... Ça aussi, la France en est une spécialiste.
Ouais,
l'Israël aussi, d'ailleurs. C'est toujours pareil. C'est un peu le même domaine. Et on ne peut pas en parler sans rappeler... Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de film encore sur ça. L'avion Air France détourné...
À Marignane. Oui, il y en a eu. Il y en a eu un qui s'appelle l'Assaut.
Mais pas assez, apparemment, parce qu'il est peu connu, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas regardé.
Oui,
je ne savais même pas qu'il y en avait un.
Il est sorti quasiment 20 ans, en fait, après justement ce détournement par des terroristes du GIA. Hein.
Oui.
Voilà, C'est pas le meilleur film du
siècle. C'est pas le meilleur film, parce que les deux autres sont connus.
Au moins, il est fait avec une bonne intention, c'est-à-dire rendre hommage à l'efficacité et au courage de...
C'était le GIGN.
Du GIGN,
oui,
tout à
fait. C'était impressionnant. Moi, je me souviens, j'avais regardé ça en direct. C'était spectaculaire. Opération 100% réussie, une fois de plus. Alors, revenons à nos films, parce que là, il s'agit de très bons films, quand même. Hein. Opération Entebbé.
Raid sur Entebbé. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette opération Entebbé, c'est en Ouganda, et c'est un détournement d'un avion d'Air France, mais où il y avait beaucoup de passagers israéliens et français juifs.
Parce que c'était un vol Air France pour Tel Aviv.
Qui partait de Tel Aviv. Et il a été détourné à Athènes.
Oui, partait de Tel Aviv vers Paris.
Et il a été détourné à la fois donc par des Palestiniens du c'était le FPLP.
FPLP que soutient aujourd'hui LFI et Mélenchon.
Voilà, donc Georges Habache à l'époque. Oui. Et puis par deux terroristes d'extrême gauche allemands.
Exactement, donc, rappelons que tous les groupuscules d'extrême gauche français, allemand, italien, japonais et que sais-je encore s'entraînaient s'entraînaient dans les camps palestiniens du Liban
et se prêtaient main forte.
Voilà, et donc dans ce détournement effectivement, et on le voit dans le film d'ailleurs, il y avait donc le FPLP avec deux Allemands.
Et donc, détournement, parce que l'avion est rempli d'Israéliens et de Juifs. Ils essayent après donc, d'aller se poser en Libye. Même Kadhafi n'en veut pas, dégager. Ils essayent le Soudan n'en veut pas. Et ils arrivent en Ouganda, chez le dictateur sanguinaire Idi Amin Dada, qui à l'époque était devenu anti-israélien. Pourtant, c'est une créature d'Israël, Idi Amin Dada, mais il avait retourné sa veste. Et donc, aéroport d'Entebbé,
ils sont complices. Donc, ils atterrissent dans un aéroport où le gouvernement est complice des détourneurs d'avions.
Voilà. Et là, en fait, à l'époque, et ça on le voit dans le film Raid sur Entebbé, à l'époque, c'est Yitzhak Rabin, qui est Premier ministre d'Israël, et son ministre de la Défense, c'est Shimon Peres.
Oui. Travaillistes, donc.
Des gens de gauche, des modérés, des gens qui sont pour la paix. Eh bien, ils vont essayer de gagner du temps, en particulier par des tentatives de négociation. Oui. Les Français aussi, en fait, rentrent dans le jeu de la négociation.
Et en moins d'une semaine,
vous allez nous en parler, mais ils organisent une opération commando qui est remarquable. Et moins d'un an après cette opération commando, donc 77, sort un téléfilm au départ qui s'appelle Raid sur Entebbé, qui passe sur NBC, je crois, aux États-Unis, mais qui a un tel succès, et puis en plus avec des têtes d'affiche, c'est Charles Bronson qui est en gros le meneur des commandos israéliens, que ce téléfilm va être exploité au cinéma. Alors dites-nous en plus sur cette opération.
En réalité, oui, les Israéliens ont essayé de négocier avec les Français, puisque l'avion était français, Air France. Et donc, mais ils ont bien vu que les négociations n'avançaient pas. Et puis surtout, les otages avaient été débarqués de l'avion. Parce que c'est ça, la différence entre un détournement classique où les otages sont dans l'avion, où le gouvernement collabore avec
complètement. Il y avait une centaine de soldats ougandais qui gardaient l'avion et les otages.
Habituellement, lorsqu'il y a un détournement d'avion, les otages sont dans l'avion, et puis l'aéroport sur lequel est posé l'avion, les autorités l'encerclent et collaborent avec les pays. Le gouvernement était complice.
Voilà, les autorités aidaient les Palestiniens, les relayaient même.
Et ils les ont débarqués de l'avion pour les mettre dans l'aéroport. Donc en fait, c'était une prise d'otages qui n'était plus dans l'avion, mais qui se passait dans l'aéroport d'Entebbé. Et donc, on était là, ça devient très compliqué. Et comme le gouvernement local était complice, ils ont compris au bout de quelques jours que tout ça n'allait pas se terminer de manière correcte. Et donc, le danger, c'était que ces otages soient éliminés, etc. Donc, ils ont pris une décision très compliquée à prendre, c'est-à-dire d'aller faire une opération commando, d'atterrir. Et encore une fois, parce que généralement, comme on a rappelé l'affaire de Marignane, évidemment, c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes vous-même, vous tenez vous-même l'aéroport. Là, il s'agit d'atterrir dans un pays ennemi, puisque le pays soutient les preneurs d'otages et de les libérer. C'est osé.
C'est osé, ils y sont arrivés trois avions, dont deux Hercules C-130. Et puis, il y a un commando qui s'était infiltré, mais ça, on le sait moins, en fait, par le Kenya, et qui est arrivé par voie de mer. Et ça a été Alors, il y a eu quatre otages tués pendant l'assaut. Il y a eu une trentaine de soldats ougandais. Les terroristes, Palos et l'extrême gauche, tous butés. Et un Israélien.
Alors, c'était le commandant de l'opération. Je rappelle juste que c'était quand même plus que osé, parce que ils font atterrir Et en plus, c'était improvisé. Ils ont décidé à la dernière minute, les avions israéliens atterrissent, mais on ne sait pas que c'est des Israéliens.
Non, ils se font passer pour l'avion Didi Amin Dada.
Exactement.
Et ils en font sortir la même Mercedes qu'Amin Dada.
Amin Dada avait une Mercedes 600 somptueuse, une sorte de limousine de l'époque. Et donc, ils prennent un Israélien à la peau un peu foncée.
Oui.
Ils le font habiller comme un maréchal africain, vous savez.
avec 30 kilos de médailles.
Et puis ils mettent cette Mercedes énorme, cette limousine, dans l'avion. Et l'avion atterrit, faisant croire que c'est le président, le dictateur Amin Dada.
Il était en effet en voyage officiel.
Il était en voyage officiel. Il profite de ça. Vous voyez comment les circonstances aussi,
L'inventivité, l'inventivité, la malignité, c'est génial.
L'avion atterrit, on le voit dans le film, extraordinairement bien fait. Et donc, cette limousine descend. Et donc, les militaires qui protège l'aéroport voit ça et donc ne se méfie pas. Et puis là, il y a une attaque. Derrière la limousine, il y a les commandos israéliens qui investissent l'aéroport. Et qui sont... Alors, le commandant de cette opération était le frère de Benjamin Netanyahou. Et c'est le seul mort, d'ailleurs,
de commandos
israéliens. En revenant, en rentrant, une fois que tout le monde était sauvé, il se prend une balle à la dernière minute.
Et
il
décède dans l'avion. Il a été tiré de la tour de contrôle et il est
décédé
en effet
dans l'avion. On n'a pas eu le temps de parler de Colvézi, c'est dommage.
On en parlera une autre fois parce que c'est intéressant.
Colvézi, c'est quand même extraordinaire. C'était la Légion étrangère qui a sauvé des Français et des Belges, comme
le service action.
Jean-Pax Meffray dans sa chanson Colvézi, que je recommande à tous nos auditeurs.
Donc on rappelle Red sur Entebbe, un film de 1977 qui existe dans de très bonnes éditions DVD en France avec Charles Bronson
et d'autres acteurs américains connus dont j'ai oublié le nom.
Yaphet Kotto qui était le méchant dans Vivre et laisser mourir. Voilà, chers auditeurs, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique.